18 octobre. Hier soir, j'ai eu le tort de conduire Madeleine chez Désiré Durand, un ami, une relation plutôt, à qui on ne refuse pas une invitation, tellement il est visible que c'est pour faire nombre qu'on a pensé à vous. Se rendre chez cet homme d'affaires, c'est à peu près se rendre à un spectacle amusant. En arrivant rue Pierre-Levé, nous nous trouvâmes, ma femme et moi, tout de suite en sa présence. Il nous reçut avec une rondeur, une familiarité, qui firent que, dès que je fus seule avec Madeleine, je la regardai en souriant ironiquement. Mais son visage demeura sévère. Elle ne parut pas s'expliquer mon sourire. « Je ne comprends pas, dit-elle, que tu puisses accepter une pareille invitation. Il ne faut pas que tu me respectes beaucoup. » Lorsque Madeleine se trouve à un endroit où l'on s'amuse, elle se déplaît aussitôt. La joie chez autrui lui fait mal. Elle accuse toutes les femmes de flirter, de se faire faire la cour, de se dire du mal les unes des autres, et les hommes d'être superficiels, de se croire irrésistibles, de se vanter de leur bonne fortune. Elle ne prononce plus une parole. Avant de sortir, elle s'était préparée, comme si elle devait être la seule femme belle, un peu comme la seule invitée à un déjeuner d'hommes, c'est-à-dire avec simplicité et raffinement. Elle avait mis à son corsage deux gros œillets, mais en arrivant, à la vue des couples qui dansaient, qui riaient, elle les ôta pour les garder à la main. Elle, qui savait que presque toujours on la remarquait, elle avait souffert de ne faire aucune sensation apparente, alors qu'elle était certaine, à des signes que seules les femmes discernent, que tout le monde l'avait en réalité aperçue. Pourtant, elle eût été profondément déçue si j'avais refusé cette invitation. Elle avait voulu venir, mais à peine arrivée, elle s'était repliée. J'ai fait pourtant tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle passât une bonne soirée. C'était machinal en moi d'introduire aussitôt Madeleine dans les conversations. Elle disait un mot, puis se taisait. Je ne me décourageais pas et aussitôt après, je lui posais une question, tâchant de la rendre sympathique pour qu'elle fût heureuse. Dans ces circonstances, rien ne me cause plus de joie que les succès qu'elle peut remporter, non pas que j'en retire la moindre vanité, mais parce qu'elle est transformée quand elle plaît. Lorsqu'un invité lui parlait avec froideur, je souffrais, je me montrais le plus gentil que je pouvais avec elle, pour que ce tiers comprît que j'aimais Madeleine et pour qu'il fût plus aimable. Mais elle conservait un visage glacé. Dès que je supposais qu'elle prenait plaisir à la compagnie de quelqu'un, je m'éloignais et, de loin, faisant semblant de m'intéresser prodigieusement aux propos du premier venu, je la regardais, guettant anxieusement sur son visage un sourire qui m'eût rempli de bonheur. Mais si son interlocuteur cherchait à s'éloigner, elle restait muette, faisant semblant de ne rien remarquer. Car elle est de ces femmes qui ne retiennent personne, mais qui, dès qu'on les quitte, sont froissées. Je revenais alors auprès d'elle. Pendant l'instant où nous restions seuls, j'éprouvais une gêne pénible. Du monde arrivait toujours, et dans le hall et dans le grand salon, on pouvait à peine se mouvoir. Sans rien me demander, Madeleine se dirigea brusquement dans un coin et, faisant face aux invités, elle prit l'attitude d'un être supérieur, regardant les misérables ébats de l'humanité. Je la suivis. Pour qu'on interprétât pas mal cette attitude, je pris un air bon enfant. « C'est lamentable !» dit Madeleine. « Mais qu'est-ce qu'il y a de lamentable » demandai-je. « Que t'importe que tous ces gens soient ainsi. Il faut les prendre pour ceux qui sont. Cela n'a absolument aucune importance. » Madeleine garda le silence. À ce moment, j'aperçus Durand qui, de loin, me faisait signe de venir. Je voulus que Madeleine m'accompagnât, mais elle refusa. J'étais indécis, ne sachant pas si je devais la quitter ou non. « Je reviens tout de suite, » dis-je machinalement. « Je ne veux pas être impoli. Mais viens avec moi. » « Je ne veux vraiment pas !» Madeleine avait pris un visage de martyr. Elle ajouta « Mais si tu as envie d'y aller, je ne t'en empêche pas. Amuse-toi. Ne t'occupe pas de moi. » Je m'éloignai. « Ah, vous voilà enfin, cher ami, » me dit Durand. « Je voulais justement vous présenter à Madame Barrère, qui a beaucoup entendu parler de vous, et à Madame Chaumier. » L'homme d'affaires avait avec moi, quoi qu'il fît pour le cacher, un certain air protecteur. L'air de celui qui, même lorsqu'il a besoin de quelqu'un, rend service à celui de qui il a besoin. Ainsi, ce n'était pas Ceccaldi qui l'avait obligé en lui faisant gagner son procès, mais lui qui avait rendu service à Ceccaldi en le choisissant. Il arrive un moment où la fortune dépasse à un tel point toutes les qualités que le médecin auprès de certains n'est qu'un petit anonyme dont la science n'a qu'une valeur d'avis et de conseils. Durand m'avait en quelque sorte présenté en ami de l'un de ses obligés à ces deux femmes. Finalement, il s'éloigna avec l'une d'elles et me laissa seule avec Madame Barrère. Cette dernière était très jolie et parut tout de suite me porter un grand intérêt. À ce moment, j'aperçus ma femme qui me regardait avec une telle détresse dans les yeux que j'en fus bouleversée. Brusquement, je quittai Madame Barrère et rejoignis Madeleine qui me dit ces seuls mots « Rentrons, j'ai à te parler !» Dans le taxi qui nous ramenait, elle ne desserra pas les dents. Comme je voulais lui embrasser les mains, elle eut un tel mouvement de dégoût que j'en restais stupéfait. « Qu'as-tu ? » demandai-je, en sachant très bien que tout cela provenait de ce que j'avais parlé à Madame Barrère. Elle ne répondit pas. Elle souffrait profondément. C'était donc cela, l'homme à qui elle avait donné sa jeunesse ? Tout s'écartait d'elle. Personne ne la comprenait. Énervée par cette soirée, par le rôle effacé qu'elle avait tenu, elle se sentait envahie par une haine profonde contre moi. Brusquement, elle me dit « Je ne veux pas rentrer, il est trop tôt. »« Mais que veux-tu faire ?»« Je veux m'amuser. Je ne suis pas plus mal que toutes ces femmes qui passent leur vie à flirter. Je veux m'amuser. J'ai encore du succès, tu t'en apercevras. » Nous nous rendîmes dans une boîte de nuit. Il n'y avait que peu de monde, comme il n'était pas tard, et vers 11 heures du soir, la salle avait un vague air matinal. « Commande !» dit Madeleine. Devant la gentillesse des garçons, des chasseurs, des maîtres d'hôtel, devant les regards extasiés de quelques clients, elle s'était remise et sentait renaître en elle la bonne humeur. Elle respirait avidement. Mais moi, je l'observais avec inquiétude. Je savais par expérience que cette gaieté était fausse et cachait quelque chose. Madeleine, quand elle est en colère, commence toujours par simuler de l'indifférence et une sorte de soif de liberté. On eût dit qu'elle voulait me montrer qu'elle avait son existence propre, que puisque je ressemblais aux autres hommes, elle ressemblait aux autres femmes. Mais il suffit de s'occuper d'elle, d'être particulièrement empressée, pour qu'elle oublie tout momentanément. Des soupeurs commençaient à arriver et presque chaque homme la dévisageait. « Tu vois, dit-elle, ce n'est pas partout la même chose. » Elle se fâcha pour qu'on lui apportât des cigarettes. Elle était heureuse. Et pourtant, au fond d'elle-même, je sentais une colère sourde contre moi. « Et si je te demandais de me laisser seule ? » dit-elle brusquement. J'eus sans doute l'air effrayé. « Non, n'aie pas peur, tu peux rester. Tu ne me gênes pas. Cette dame peut t'attendre. » Elle avait dit cela sur un ton de sincérité ironique, comme si elle ne demandait qu'une chose, que je fusse heureux avec Madame Barrère. Elle était de plus en plus nerveuse. Instinctivement, je n'osais la contredire et je la laissais parler avec l'espoir qu'elle se calmerait d'elle-même. L'orchestre jouait sans interruption et déjà quelques personnes ivres se lançaient des serpentins. Tout à coup, elle se tourna vers moi et me dit « Tu sais que je suis encore jolie. Tu vas t'en apercevoir tout à l'heure. » À peine eut-elle prononcé cette parole qu'elle se leva brusquement. « D'ailleurs, j'en ai assez. Je rentre chez mon père. Comme cela, tu pourras faire ce que tu voudras tout seul. » J'essayai de la calmer, mais ce fut en vain. À peine dans la rue, au contact de l'air froid, elle se mit à pleurer, puis à gémir. La raison de cette nervosité n'est en réalité pas du tout la jalousie. Madeleine n'est pas jalouse de moi. C'est son amour-propre qui a été mis à une rude épreuve au cours de cette soirée. Elle s'est vengée sur moi de la prétendue indifférence qu'on a paru lui témoigner. 19 octobre. À la première heure, j'ai téléphoné au père de Madeleine. Il allait justement me demander de venir le trouver d'urgence. J'éprouve pour M. Curti une sorte de sentiment respectueux. Il a vraiment supporté avec philosophie les coups du sort. Ce n'est pas lui qui eût fait ce que fit son ami Dieguera, qui, sentant ses affaires compromises, tenta toutes les démarches possibles comme s'il eût été question de sa propre vie, allant jusqu'à supplier en pleurant des inconnus d'intervenir en sa faveur, intervention qui eût se nui à ces derniers. Notez qu'il n'eût pas levé le petit doigt pour venir en aide à quelqu'un. Il avait perdu toute dignité dans sa peur d'être ruiné. C'était d'ailleurs un drôle de personnage que ce Dieguera. Il lui arrivait de froisser ses meilleurs amis, et lorsque les brouilles prenaient des proportions inattendues, il ne savait plus qu'inventer pour qu'on lui pardonnât. Il se répandait en regrets disproportionnés à la faute, ce qui ne l'empêchait pas, une heure après, de se conduire insolemment avec celui-même auprès de qui il venait si théâtralement de s'excuser. Pour un rien, il se plaçait dans l'état d'un condamné qui, conduit sur le lieu d'exécution, supplierait les bourreaux, son avocat, le prêtre, les spectateurs, de le sauver. On conçoit ce que put être son attitude au moment où il perdit sa fortune. Tout autre fut celle de M. Curti. Il accepta sa ruine comme une maladie, sans qu'une seconde la pensée lui vînt d'en rendre responsable qui que ce fût. Comme après une séparation, lorsque brusquement on songe à celle ou à celui que l'on a quitté, il lui avait semblé qu'il était victime de son imagination, que rien ne s'était passé, que cela ne pouvait continuer ainsi, que par un moyen qu'il ne prévoyait pas, tout retomberait dans l'ordre de jadis. Mais quand, à la réflexion, il s'apercevait de la réalité des choses, il éprouvait le sentiment douloureux de son impuissance. Tout était bien fini. Souvent, Curti est appelé à rencontrer des gens dont la situation présente est aussi importante que fut la sienne. Il ne montre alors rien qui puisse trahir son ancienne condition, cela en dépit de sa femme Jeanne, qu'il a épousée bien après, et dont le désir était au contraire que l'on sût ce qu'avait été son mari, allant même jusqu'à laisser planer une sorte de confusion sur le passé, afin qu'on pût penser que ce n'était pas seulement Curti qui avait été ruiné, mais elle aussi. Certaines femmes sont très à l'aise dans ce genre de confusion, car les biens que l'on a pu posséder avant de les connaître, elles s'imaginent qu'ils leur sont volés. Ainsi, de son opulence, Curti avait malgré tout gardé quelques vestiges, entre autres quelques tableaux sans grande valeur commerciale. Pour Jeanne, ils étaient sacrés. Or, il arriva qu'un jour, Curti promit un de ses tableaux à Dieguera qu'il avait trouvé tellement à son goût que chaque fois qu'il rendait visite à son ami, avant toute chose, il demandait la permission de le contempler. Jeanne avait assisté à ce don. Elle n'avait pas soufflé mot et s'était même offerte à emballer le tableau. Mais à peine Dieguera fut-il parti qu'elle entra dans une violente colère. « Comment, dit-elle, non content de m'avoir privé de toutes ces belles choses, il faut que tu donnes les misérables restes. Il faut que tu montres ta bonté à mon détriment. » Car Curti, par une sorte de coquetterie, lui dont la générosité n'avait rien eu de particulier, est à présent extraordinairement prodigue. Il est incapable de refuser quoi que ce soit. N'ayant plus que des biens insignifiants en regard de ceux qu'il possédait jadis, il éprouve une sorte de plaisir à ne tenir à rien, à laisser supposer qu'il est encore plus gêné qu'il ne le paraît, à partager ce qu'il possède comme si ce qui lui reste n'avait plus aucune importance. Il semble toujours dire que les biens de ce monde sont illusoires, et c'est en partie sincère, car si grâce à une opération magique il était rentré en possession de sa fortune, il eût vraisemblablement conservé l'attitude détachée qu'il avait apprise à avoir sans elle. Justement, une des conséquences de sa ruine est de lui avoir appris qu'il ignorait la valeur de l'argent. Toute son indulgence repose sur cette connaissance. On lit sur son visage que le mauvais sort n'a pas été si cruel puisqu'il lui a permis d'acquérir une intelligence de la vie qu'il n'eût pas eue sans lui. Il s'applique maintenant à ne rien laisser paraître de son habitude de la richesse et même encore à acquérir des manières plus humbles au grand désespoir de sa femme. Ainsi, quand il me quitte, si je lui demande s'il veut que je lui fasse chercher une voiture, il me répond qu'il préfère rentrer en tramway, qu'il y est accoutumé, que cela l'ennuie d'aller contre ses manies. Jeanne voyait en cela un besoin ridicule d'humiliation qu'elle transformait vite en désir de la rabaisser elle-même. Elle lui reprochait d'avoir fait des présents à ses maîtresses de jadis. Elle avait d'ailleurs ceci de particulier qu'elle ne reprochait jamais à son mari ses fredaines passées, mais l'argent qu'il avait pu dépenser avec d'autres femmes. D'origine modeste, elle était une de ces femmes pour qui la bénéficiaire d'une prodigalité ne peut être qu'aimée. Une sorte de colère montait en elle chaque fois qu'elle songeait que d'autres avaient connu Curtis sous un jour plus avantageux. Quand son mari, par mégarde, parlait de sa genèse, des vacances qu'il avait passées avec sa famille à Florence, une sourde rage naissait en elle et brusquement elle s'écriait « Moi aussi, je veux aller à Florence. Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. »«
Nous irons, » répondait Curtis.
« Nous irons ? Eh bien, partons. J'en ai assez de toutes tes promesses. Partons, partons. »
Son mari la calmait toujours par sa patience. Il ne s'emportait jamais. Ou bien, cédant, il arrivait que tous deux partaient réellement pour Florence. Il serait trop long de s'étendre sur ses voyages. Il faut dire pourtant qu'ils étaient difficiles. Curtis refaisait pour sa femme, mais avec des moyens réduits, ce qu'il avait fait jadis en grande pompe. Pendant que Jeanne s'acharnait à savoir si c'était bien dans l'hôtel où ils étaient descendus que jadis son mari avait séjourné, celui-ci essayait de lui faire comprendre le peu d'importance que cela avait. Curtis redevient lui-même quand les circonstances le mettent en présence d'un homme qui, comme lui, a été victime du sort. Ainsi que ces gens qu'une même et unique préoccupation réunit, les deux hommes se parlent alors avec une extrême politesse en faisant attention de ne pas s'éloigner du point où il est si agréable d'être pleinement d'accord. Curtis étant sur les événements qui ont provoqué sa ruine, sur la règle de vie qu'il s'est imposée par la suite, cela avec ce don du technicien qui surprend, par exemple, chez un médecin que l'on est habitué à voir en dehors de sa profession et qui, un beau jour, est amené à faire un diagnostic devant vous. On comprend alors que Curtis n'a pas oublié qu'il y a au fond de lui-même une zone où tout le passé est resté intact. La gravité subite qui se dégage de lui laisse apercevoir, non sans qu'on éprouve de l'étonnement, qu'il a des rancunes, des ennemis, des souffrances qui lui sont propres et dont il ne parle jamais. Lorsque Jeanne assistait à un entretien de cet ordre, elle était ravie, car elle avait ceci de commun avec la plupart des femmes, qu'elle croyait qu'il suffit de vouloir pour retrouver ce que l'on a perdu. Elle s'appliquait à faire des deux hommes des complices, des victimes qui n'avaient qu'à s'unir pour devenir plus fortes, qui devaient, à partir du lendemain même, tout mettre en œuvre pour tenter de récupérer des biens qui n'existaient plus. Selon elle, rien n'était jamais définitivement perdu. J'ai dit que j'éprouve pour Curtis une sorte de respect. C'est vrai. En sa présence, j'ai même cette attitude qu'ont les jeunes gens quand ils parlent à des hommes célèbres. C'est pourtant un peu différent, en ce sens qu'il n'y a aucune timidité de ma part, mais au contraire, un besoin d'approuver, de trouver bien tout ce qu'il dit, de manifester une certaine indépendance de jugement lorsqu'il s'agit de questions de goût. La raison de cette admiration vient de la grande dignité devant l'adversité dont fait preuve Curtis, de sa modestie, de son effacement et du fait que jamais il ne parle de sa splendeur passée. Je dois ajouter que dans ma gentillesse, il y a un peu le désir que Curtis devine comme j'apprécie sa discrétion. En arrivant, je craignis qu'il ne fût mécontent et ne me fît quelques reproches. À peine ai-je été mise en sa présence, qu'il eut, au lieu de l'air sévère que j'attendais, un sourire. Il faut arranger cela. C'est tellement enfantin de se disputer pour des choses pareilles. J'étais gênée, comme on l'est quand notre interlocuteur, par délicatesse, semble ignorer le motif d'un de vos actes et qu'on ne peut se justifier. Curtis parlait avec douceur, comme s'il eût ignoré ce que sa fille reprochait à son gendre, et pourtant, il ne pouvait l'ignorer puisqu'il m'avait fait venir. J'étais intimidée et n'osais ramener la conversation sur la nervosité de Madeleine, nervosité dont le père paraissait ne pas connaître l'existence. Pourtant, je ne pus m'empêcher de dire, sur le ton que l'on prend dans les entretiens d'homme à homme, « Mais Madeleine est tellement sensible, imaginative, qu'elle se figure des choses qui n'existent pas. » Curtis ne tint pas compte de cette appréciation. Il était visible que, pour lui, sa fille était parfaite et que, ne voulant pas savoir la vérité, il préférait ne pas comprendre. « Il ne faut pas, continua-t-il, que des incidents ridicules puissent vous diviser ainsi. » Curtis ne prend jamais parti pour personne. Il en est souvent ainsi chez ceux qui ont de grandes amours et qui ne veulent pas être déçus. Curti était de plus en plus aimable avec moi pour ne rien apprendre qui pût lui faire de la peine. À ce moment, Madeleine parut. Elle était remise et reposée. À sa vue, son père dit « Voilà, très bien, il faut être raisonnable, Madeleine. Il ne faut pas t'emporter pour des enfantillages. » Il dit cela en donnant imperceptiblement tort à celle qu'il aimait, dont il était sûr, pour n'avoir rien à apprendre de moi, tâchant ainsi de se concilier l'amitié de son gendre, qu'il feignait de juger plus importante que l'amour de sa fille. Madeleine, comme je lui souriais, me regarda avec cet air des gens qui se réconcilient avec un être qu'ils n'aiment pas. « Mais ce n'est rien, dit-elle, j'étais simplement nerveuse. On voit mieux les choses le matin. » « Je suis content, dit Curti, mais promets-moi, Madeleine, de ne plus recommencer. » Madeleine, en réalité, était indifférente. Il s'était passé ceci que, la colère évanouie, le sommeil avait tout effacé. Elle était à présent comme la veille au matin et un peu confuse de son acte. En rentrant, je me montrai plein de prévenances pour elle, mais elle faisait semblant de ne pas le remarquer. À peine arrivée à la maison, elle éprouva le besoin impérieux de faire des observations désagréables à la femme de chambre pour montrer que son absence n'amoindrissait en rien son autorité. Elle était de plus en plus nerveuse. Pour ne pas faire de la peine à son père, elle lui avait obéi, mais elle était furieuse à la pensée que je puisse croire que c'était pour moi qu'elle était revenue. 20 octobre. Je me suis demandé si une vie sans affection, sans but, une vie qu'on remplit de mille riens afin d'en rompre la monotonie, une vie pleine d'êtres vivants que l'on recherche pour ne pas être seul et que l'on fuit pour ne pas s'ennuyer, si une vie semblable n'est pas ridicule, s'il ne vaudrait pas mieux faire n'importe quoi. Je me suis demandé cela en me promenant ce matin, cependant qu'il faisait un temps idéal. Pas un nuage dans le ciel, l'été semblait renaître. Le soleil avait une chaleur douce. Toutes les extrémités des branches dénudées se balançaient légèrement dans l'air bleu, et moi, sans amour, sans femme à dire combien je trouvais belle cette matinée, je me sentais vieux. Au lieu de me laisser envahir par la joie, je pensais à moi-même. Et pour me soulager, j'en suis arrivé à m'imaginer que j'étais peut-être le seul homme aussi délaissé, aussi malheureux. Il y a pourtant en moi, comme en tout le monde, une grande soif d'amour, mais, et c'est ce qui m'attriste le plus, il y a une impossibilité profonde de plaire, d'être aimé. Je suis fait pour vivre seul, mais je ne puis rester seul. Il me faut des visages autour de moi, des amis. J'ai constaté qu'aux minutes qui précèdent le moment où je dois rencontrer quelqu'un de mes camarades, je suis heureux. Je me sens alors semblable aux autres hommes et mon désespoir disparaît. Un rendez-vous avec la plus insignifiante des relations éclaire ma journée comme si c'était un être aimé que je devais rencontrer. Mais dès que les formules de politesse sont échangées, je me sens tout à coup tombé dans un grand vide. Je n'ai plus qu'une pensée, partir. Mais je n'en ai pas la force, tellement me fait horreur le moment où je vais me retrouver seul. S'il arrive que ces gens qui m'ennuient, que je trouve ridicules pour une raison ou une autre, sont obligés de me laisser plus tôt que je ne l'avais prévu, je souffre profondément. J'essaie alors, par tous les moyens, de les suivre, au risque de passer pour indiscret. Je leur propose de les accompagner, de les attendre. Je leur demande si réellement je suis de trop. Et quand, sous le prétexte de ne pas m'obliger à une corvée, ils se débarrassent de moi, il m'arrive, devant le fait accompli, de pousser un cri de joie.